il y aura une disposition et puis après, le Père Philippe viendra. C'est-à-dire, je vais faire la première partie jusqu'à demain matin, normalement. Le sujet de notre session, c'est la création et le péché. Alors, le Père Philippe se réserve le péché. C'est mieux. Disons, on va essayer de... ensemble, jusqu'à demain matin, de pénétrer le mystère de la création. Il y a plusieurs regards possibles sur le mystère de la création. Ce matin, ce que nous allons faire tout d'abord, puisque nous sommes dans une session de théologie, eh bien nous allons ouvrir l'écriture et lire les deux récits de la création dans la Genèse. Les deux récits. Je ne sais pas s'il est familier pour tout le monde de parler de ces deux récits. Si j'ai bon souvenir, quand j'étais au catéchisme, on m'a appris, oui, la création. Alors le premier jour, Dieu sépare la lumière et les ténèbres. Le deuxième jour, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, avec le ciel, etc. Et puis le sixième jour, Dieu fait les animaux, puis Dieu fait l'homme. Et après, avec une côte de l'homme, il fait la femme. Et puis le septième, il se repose. C'est pas ce que nous dit la Bible. Dans la Bible, il y a deux récits avec deux ordres différents. Alors, dans un premier temps, nous allons nous attacher à lire chacun d'eux. Et puis après, nous essaierons peut-être d'entrevoir pourquoi il y a ces deux récits. Pourquoi ces ordres différents. Bien sûr, le livre de la Genèse, tel qu'il nous est donné, tel que nous le recevons, il n'a pas été écrit d'un seul jet par un auteur. Les exégètes arrivent assez facilement, du moins dans les grandes lignes, à distinguer plusieurs traditions, comme plusieurs documents, qu'on appelle les documents, qui auraient été ensuite mis ensemble par un écrivain inspiré, qui lui a donné la forme définitive que nous connaissons. Plusieurs documents qui proviennent donc de traditions différentes. Il y a le document sacerdotal plus élaboré, donc qu'on appelle sacerdotal parce qu'il a été il est né dans le milieu des prêtres plus cultivé. Il y a le document yaviste, le document éloïste. Alors, bon, je ne vais peut-être pas entrer dans toutes ces considérations-là. C'est bon de le savoir. Mais pour nous, dans un regard de foi, devons nous demander pourquoi l'Esprit-Saint, qui est l'auteur principal de l'Écriture, a voulu qu'il y ait ces deux récits. On peut expliquer comment. Vous voyez comment ? Parce qu'il y a plusieurs traditions humaines. Et dans un regard de foi, quand nous lisons l'Écriture et les paroles de Dieu, et donc il y a une intention de Dieu au-delà du conditionnement de l'histoire des hommes. Alors entrons dans le premier récit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était un chaos, et il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres, il les appela nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Au commencement. Juste une remarque. Ce premier récit commence par la deuxième lettre de l'alphabet hébreu. La première lettre, elle appartient à Dieu. C'est pas un hasard. C'est juste une petite remarque. L'écriture, il n'y a pas de choses au hasard. Au commencement. Quel est ce commencement? Il y a donc un point de départ. Un point de départ de l'histoire du monde. Un point de départ dont Dieu rend compte. Dieu créa. Le verbe créer dans la Bible est toujours réservé à Dieu. Il exprime une action que Dieu seul peut faire. Il n'a pas nécessairement le sens, j'allais dire, technique dans lequel nous l'employons. Mais en tout cas, il désigne toujours une action divine. Dieu créa le ciel et la terre. Tout de suite, avec cette action divine, qui marque un commencement, on voit une distinction, le ciel et la terre. La tradition y a vu tout de suite ce que nous disons dans le symbole de la foi, le monde visible et invisible. Le ciel, la tradition y a lu les anges. Et la terre, tout l'univers visible, tout l'univers physique. Or, la terre était un chaos. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. La terre était un chaos. Le tohu-bohu. Il y a d'abord quelque chose, il y a d'abord comme un désordre. Et c'est très intéressant de voir, nous allons le voir avec les jours, Dieu va commencer par distinguer. Le récit de la création, il y a d'abord la création, Dieu créa, puis après Dieu va distinguer, et après Dieu va ornementer. C'est trois étapes. Il y avait les ténèbres au-dessus de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. C'est difficile à imaginer. Je ne sais pas si vous y arrivez. Il y a la matière, la terre c'est la matière, mais il n'y a pas encore de forme, elle était un chaos. Il n'y a même pas la lumière, parce qu'il y a les ténèbres. Vous voyez, qu'est-ce qui est fondamental? La terre qui est un chaos, il y a les ténèbres, il y a les eaux, l'eau, on trouve l'eau dès le point de départ, et puis l'Esprit de Dieu qui plane au-dessus des eaux. Ça demeure mystérieux, Et je crois qu'il faut pas essayer d'abord de tout comprendre. Il est important, ça c'est sûr qu'on a toujours besoin de revenir à l'écriture. Vous voyez, quand on a une définition, Parce que la création, je ne sais pas, souvent nous avons une définition, une façon de voir. Et l'Écriture nous invite à revenir à un regard de foi. La création est un mystère, au-delà de ce que nous avons pu en comprendre, au-delà de la définition que nous pouvons en donner. Et puis, alors là, ce n'est pas directement le sujet de notre session, mais c'est important de le faire au passage. Vous savez, ces premiers récits, et tous les 11 premiers chapitres de la Genèse, ont une place capitale dans l'Écriture. Il est important de saisir déjà dans ces récits ce qui va se retrouver comme des thèmes de toute l'Écriture. L'alliance de l'eau et de l'esprit. Hein. L'esprit, c'est le souffle. Hein. L'esprit, c'est le souffle. L'esprit de Dieu, hein, c'est roi, le souffle. C'est important de voir ces thèmes qui seront présents tout au long de l'Écriture et qui sont présents dès le commencement. Dieu dit. Alors la parole de Dieu. Dans ce récit, il y aura 10 paroles par lesquelles Dieu distingue et orne le monde. Il y en a 10. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu dit? Quelle est cette parole, hein? La parole qui suit la pensée. Que la lumière soit, et la lumière fut. C'est une parole qui s'apparente, vous voyez, à l'artiste qui porte en soi son œuvre et qui l'exprime. Vous voyez qu'il y a une inspiration de ce qu'il veut faire. Ça, c'est sa pensée, c'est au-dedans de lui, et il va l'exprimer. Mais c'est par un ordre que la lumière soit. Dieu dit. C'est important de voir. Oui, on passe vite dessus. Qu'est-ce que c'est que cette parole? Faites que Dieu dise, que la lumière soit. Le texte de l'Épître aux Hébreux, Dieu dit qu'il porte tout par sa parole puissante. Alors là, c'est la parole. Il porte tout par sa parole puissante. La parole, c'est ce qui porte au dehors de moi ce que j'ai, ce que j'ai conçu dans mon esprit. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alors il y a une parole efficace, car tu dis, et elle existe. La parole qui exprime à la fois la pensée et puis la volonté, puisque c'est un ordre. Il y a intelligence et volonté là. Que la lumière soit, c'est un ordre. Donc les deux, intelligence et volonté. L'autorité de Dieu. L'autorité qui touche ce qui doit être, ce qui est. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. La première séparation donc la création de la lumière. La lumière apparaît et la première séparation lumière et ténèbres. C'est important de voir ce qui dans notre monde physique. Qu'est-ce qui est fondamental? C'est cela en premier lieu. Et puis bien sûr, c'est un thème qu'on retrouve dans toute l'Écriture. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu dit et Dieu voit. Qu'est-ce que c'est que le Dieu qui voit? Dieu vit que la lumière était bonne. Qu'il la découvre. Voir, c'est pour nous recevoir de l'extérieur. Pour voir, il faut qu'il y ait une distance. Si je mets ma main sur mon œil, je ne verrai plus rien. Pour voir, il faut qu'il y ait une distance. Dieu voit que la lumière était bonne. Je crois qu'à travers ce texte-là est exprimé aussi c'est cette formule hein, qu'on retrouvera donc, pour tout ce que Dieu va faire, est exprimée comment la création, hein, ou l'univers, disons l'univers, qui est à la fois porté par Dieu, puisqu'il crée par sa parole, cet univers, il est autre que Dieu. Je dis pas extérieur, je dis qu'il est autre que Dieu. Il est l'objet de la vision de Dieu. Dieu voit que la lumière était bonne. Et c'est la bonté qui apparaît. Donc œuvre d'intelligence et œuvre d'amour. Il y a la bonté. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres, il les appela nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin. Alors, déjà, ça c'est la façon hein, biblique de compter. Nous comptons le jour à partir du matin. Hein. Là, c'est le soir. Il y eut un soir, il y eut un matin. Premier jour. Quand nous fêtons une grande fête, hein, où le dimanche commence le samedi soir, les premières vêpres. Qu'est-ce que c'est que ce jour? Alors nous allons rencontrer des jours. Qu'est-ce qu'il signifie? Déjà, ce ne sont pas des jours comme nous les comptons, puisque le soleil et la lune qui nous permettent de compter nos jours ne sont créés que le quatrième jour. Donc entre-temps, comment on peut compter les jours? Pourtant, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dans notre vie, nous sommes conditionnés selon le temps et selon le lieu. Et le conditionnement peut-être le plus fondamental, c'est celui du temps, l'avant et l'après. C'est simple, il fallait quitter Genève ce matin, hein, et il fallait bien calculer pour arriver de Genève à Rimont dans les délais voulus. Ça prend beaucoup de place dans notre vie, le temps. Et le temps qui implique un ordre. Est-ce que l'expérience du temps n'est pas la première expérience que nous avons de l'ordre? L'ordre le plus fondamental que nous expérimentons, c'est celui de l'avant et de l'après. Alors, ce récit qui est extrêmement ordonné va exprimer l'ordre selon ses jours. Donc à travers ce conditionnement du temps. L'ordre. L'ordre, c'est parce que il y a une multiplicité, une diversité. Et en même temps, cette diversité implique une certaine unité. C'est ça l'ordre. Quand vous avez des choses en désordre, elles sont multiples et simplement multiples. Il n'y a aucune unité. Quand vous avez un ordre, un collier par exemple, il y a plusieurs perles, mais elles ont chacune leur place. Il y a aussi une unité. Dieu va distinguer, Dieu va ornementer, il y a un ordre. Et nous allons comprendre au terme ce que cet ordre, où est l'unité de cet ordre. Ce qui apparaît tout de suite, c'est que cet ordre part du plus fondamental. Alors ça, c'est sûr, c'est un ordre. Hein, donc c'est le temps. Hein. Quand je suis dans le temps, il faut que je commence par mettre les fondations, puis après les murs et enfin le toit. Et sous cette forme de l'ordre du temps, le récit de la Genèse nous donne hein, l'ordre de l'univers en partant de ce qui est le plus fondamental. Lumière, ténèbres. Dieu dit qu'il y a un firmament entre les eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Il en fut ainsi. Dieu fit le firmament et il sépara les eaux qui sont au-dessus du firmament avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Dieu appela le firmament ciel. Il eut un soir, il eut un matin, deuxième jour. Donc, la lumière séparée des ténèbres. Le ciel, et là il y a un ordre selon le haut et le bas. En haut et en bas. Avec les eaux. Hein. Alors il serait intéressant de voir quelle est la cosmogonie hein, qui était cosmologie voyez, hébraïque hein, qui est sous-jacente. Hein. Il y a un schéma, on pourrait essayer de faire un schéma au tableau hein, représentant la vision du monde. Alors c'est sûr, c'est quelque chose de plat avec les montagnes qui sont comme des colonnes, hein, et puis une voûte vraiment fermée avec des lucarnes pour que la pluie tombe. Bon, alors ça, il y a une vision imaginative. Très bien. Au-delà, qu'est-ce que cela veut nous dire? Le haut et le bas. Avec l'eau, hein, l'eau qui tombe. Et il faut séparer le haut et le bas, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Avec le ciel, hein, le ciel, ce qui est au-dessus, hein, le ciel il est en haut. Dans notre monde physique, lumière, ténèbres, le haut et le bas, avec les eaux. Deuxième jour. Dieu dit que les eaux de dessous le ciel s'amassent en un seul lieu et qu'apparaisse ce qui est sec. Il en fut ainsi. Ce qui était sec, Dieu l'appela terre, et l'amas des eaux, il l'appela mer. Dieu vit que cela était bon. Alors maintenant, c'est sur l'horizontale hein, qu'il y a une séparation entre le sec, entre la terre et la mer. Je crois que c'est important de voir hein, cette progression. De telle façon que puisse apparaître, hein, on voit cette ordonnée pour que ça puisse apparaître sur la terre. Mais ce qu'il fallait d'abord, c'est séparer lumière, ténèbres, haut d'en bas, haut d'en haut, et puis sur le sol, hein, le sec, la terre et la mer. Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant semence, des arbres fruitiers donnant selon leur espèce des fruits qui ont en eux leur semence sur la terre. Il en fut ainsi. La terre fit sortir de la verdure, de l'herbe portant semence selon son espèce, et des arbres donnant des fruits qui ont en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Que la terre produise. C'est la terre qui produit. C'est dit comme ça, hein. La terre fit sortir de la verdure. Ça, c'est l'ornementation qui commence, vous voyez? Alors attention, il est clair que quand on lit ces récits-là, on est nécessairement On a nécessairement conditionné aussi par le regard que la science nous donne. Alors il y a des théories scientifiques sur la genèse de l'univers. Je crois qu'il faut nous garder, on en reparlera, hein, parce que c'est clair, on ne peut pas parler de la création sans essayer de comprendre, hein, sur ce sujet très spécialement, le rapport entre foi et science, entre foi et théologie entre science et théologie, et puis entre aussi science et philosophie. Je ne crois pas qu'il faille essayer, en tout cas, de faire un concordisme. Ce n'est pas l'intention de l'auteur sacré de nous dire comment ça s'est passé au sens scientifique. Que la terre produise de la verdure. Ce qui apparaît, c'est la vie. C'est la vie. Et la vie qui est caractérisée par la semence. Donc, la fécondité. C'est bien dit, hein. De la verdure, de l'herbe portant semence, et des arbres fruitiers, donnant selon leur espèce des fruits qui ont en eux leur semence sur la terre. La vie végétative, mais qui est capable de se reproduire. On voit la progression. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans le firmament du ciel pour éclairer la terre. Il en fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour présider au jour, le petit luminaire pour présider à la nuit, et aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Est-ce que c'est un hasard si, après que la vie est apparue, Dieu va faire ces luminaires qui non seulement séparent la lumière et les ténèbres, mais qui en plus vont marquer les temps. Et donc c'est l'aspect du rythme qui apparaît. Le rythme de l'univers, les saisons, les époques, les jours et les années. C'est après l'apparition de la vie que nous voyons ce rythme. Et ce rythme qui est marqué par les luminaires, les astres fixés dans le ciel. Je crois qu'on voit vraiment apparaître ce qui est fondamental. Oui. C'est là où il y a vie qu'il y a rythme. Proprement parlé, il n'y a pas de rythme sans la vie. Dieu dit que les eaux pullulent d'un pullulement d'êtres vivants et que des oiseaux volent au-dessus de la terre, à la surface du firmament du ciel. Dieu créa les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui se meuvent et dont les eaux pullulent, selon leur espèce, et toute la gent ailée selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Fructifiez et multipliez-vous, remplissez les eaux dans la mer, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Que les eaux pullulent, mais Dieu créa les grands monstres marins et les oiseaux. C'est pas la terre qui a fait sortir. Dieu fit. Et puis, c'est un nouveau niveau de vie qui apparaît. Qui qui est marqué par la bénédiction de Dieu. Alors apparaît la bénédiction de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la bénédiction ? Quand vous demandez à quelqu'un une bénédiction, pensez à un geste. La bénédiction, c'est un geste. Non, la bénédiction est une parole. Dieu les bénit en disant. C'est une parole que la bénédiction. Dire du bien. Une parole qui est liée à la fécondité. À nouveau, la vie liée à la fécondité. Fructifiez et multipliez-vous. Il y a un ordre de Dieu lié à la fécondité. On pourrait se demander, en tout cas, cette insistance qu'on avait déjà vue d'ailleurs pour tout le monde végétal, selon leur espèce. C'est pas un hasard. Dieu fait les choses déterminées. C'est chacun ou chacune selon son espèce. Donc, la multiplicité que nous voyons dans l'univers, elle est voulue par Dieu. Je ne dis pas comment elle se fait, mais elle est voulue par Dieu. C'est Dieu qui les a fait, chacun selon son espèce. Dieu dit que la terre fasse sortir des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, reptiles, bêtes sauvages selon leur espèce. Il en fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Donc la vie d'abord, liée à l'eau, l'air et la terre. C'est trois éléments. L'eau, l'air et la terre. Que la terre fasse sortir des êtres vivants. Dieu fit les bêtes sauvages. Ils sont liés à la terre, mais en même temps, c'est Dieu qui les fait. Ils sont liés à la terre, puis d'ailleurs, ils y retournent un jour. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toutes les bêtes sauvages, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, mâle et femelle, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, fructifiez et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout être vivant qui rampe sur la terre. Dieu dit, voici que je vous donne toute herbe portant semence à la surface de toute la terre, et tout arbre qui a en lui fruit d'arbre portant semence. Cela vous servira de nourriture. Et à toute bête sauvage, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui rampe sur la terre, et qui a en lui âme vivante, je donne toute herbe verte en nourriture. Il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici que cela était très bon. Il eut un soir, il eut un matin, sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur armée. On voit donc très clairement comment cet ordre, eh bien, il est entièrement, finalisé par la création de l'homme et de la femme. Tout a été fait pour. Le récit le manifeste. Vous voyez, séparer les eaux d'en bas, de lumière et ténèbres, bon, ça c'est fondamental, c'est vrai. Les eaux, d'en haut et d'en bas, les eaux d'en bas qui se séparent de la terre pour que sur la terre puisse venir la verdure. Et puis après, tous les animaux, c'est dit Dieu, c'est dit explicitement, Dieu les confie à l'homme. Plutôt, ils sont soumis à l'homme. Alors, ce qui est étonnant, premièrement, pour l'homme, il y a ce moment de réflexion de Dieu. Faisons l'homme à notre image. C'est plus simplement la parole. C'est pas que la lumière soit. C'est faisons l'homme à notre image. Il y a une parole toute spéciale où Dieu se parle à lui-même. Dieu créa l'homme à son image. Mais d'abord, il s'est parlé à lui-même. À travers ce langage, hein, il nous est manifesté comment il y a une intention spéciale de Dieu sur l'homme. Faisons. Alors, qu'est-ce que veut dire le faisons ? Un nous de majesté ? Je crois que dans un regard de foi chrétienne, on peut fort bien lire la présence du Dieu Trine, même si nous le verrons. La création, elle est l'œuvre de Dieu dans son mystère d'unité. Je crois qu'il faut surtout retenir ce conseil, comme ce conseil ou cet ordre que Dieu se donne à lui-même. À notre image, selon notre ressemblance. Donc ça, c'est unique. L'image et la ressemblance. Il n'est pas dit ici en quoi l'homme ressemble à Dieu. En quoi il est à l'image de Dieu. Il n'est pas parlé de l'esprit de l'homme. Il est parlé par contre du fait que l'homme va dominer. Donc qu'il a une autorité. Il y a une autorité qui apparaît. L'homme est doté d'une autorité sur les vivants. Tous les vivants, ceux de la mer, ceux du ciel, sur tout ce qui est sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, mâle et femelle, il les créa. Pourquoi faut-il cette précision, mâle et femelle ? Pourquoi ? Ça n'a pas été dit pour les autres animaux. Et pourtant, ils doivent aussi se multiplier. Je ne crois pas que ce soit lié, que si l'auteur sacré a mis mâle et femelle à ce moment-là, je ne crois pas que ce soit lié à l'aspect de la fécondité. Parce que la fécondité, elle est commune aussi à l'homme et à tous les animaux. Et pour eux, ça n'a pas été distingué. À l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. L'image de Dieu, elle implique cette distinction dans l'unité. Faisons l'homme à notre image, mâle et femelle, il les créa. Ce premier récit, c'est un des lieux où on voit le mieux la différence entre les deux. Ce premier récit est quand même très très discret sur l'intention de Dieu, sur l'homme et la femme. Ce qu'on sait, c'est qu'ils sont vus dans l'unité comme étant à l'image de Dieu. Voilà. C'était important d'ailleurs d'affirmer, ça l'est toujours, cette unité dans la dignité. À nouveau la bénédiction, à nouveau liée à la fécondité. Fructifiez et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Qu'est-ce que c'est que cette soumission de la terre à l'homme ? C'est l'aspect du travail qui apparaît. Donc l'homme qui a autorité sur les vivants, l'homme qui doit remplir la terre et la soumettre. Donc qui va transformer cette terre. C'est Dieu qui l'a fait et l'homme va pouvoir la transformer, la soumettre. Donc, elle est ordonnée à lui. Il a un certain pouvoir, une certaine autorité même, sur la terre. Dieu dit, voici que je vous donne toute herbe, la nourriture. C'est très intéressant ça, la nourriture. Notre première éducation, elle a été faite à partir de la nourriture. Le bébé, hein, c'est par ce qu'il mange, hein, qu'on l'éduque. Mais vous voyez, Dieu éduque l'homme à travers cette nourriture qu'il lui donne. Le vivant, qui a été marqué par l'aspect de la fécondité, le vivant implique aussi, hein, le vivant de vie sensible, hein, vivant animal et l'homme, implique aussi de pouvoir se nourrir. Donc, de prendre ce qui est dans l'univers et de le transformer en soi. C'est ça, hein ? Se nourrir. Prendre quelque chose qui est extérieur à moi, l'assimiler de telle façon qu'il devienne moi. Et c'est extrêmement important, hein, dans notre vie. C'est extrêmement important. On comprend pourquoi Dieu a fait les arbres. Hein. Pour que nous ayons quelque chose dans l'univers que nous puissions prendre et qui nous permette de vivre, d'avoir cette autonomie. Vous voyez, fécondité, hein, et puis l'aspect de la nourriture, l'aliment. Je fais juste une remarque par rapport à l'aliment. Les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel, n'ont que l'herbe verte en nourriture. À l'homme, il lui est donné toute herbe portant semence, plutôt, et tout arbre qui a en lui fruit d'arbre portant semence. Il y a une distinction par rapport à la nourriture. Alors, est-ce que l'homme a été voulu par Dieu végétarien? On ne sait pas, hein, je veux dire. C'est pas ça qu'il faut en déduire. Ce qu'on voit, c'est, vous voyez, ça c'est sûr, hein. C'est uniquement le monde végétatif. Dans le monde animal, il n'est pas question, hein, de destruction d'un animal pour que l'homme se nourrisse. Ah, c'est étonnant. Bon, on peut se demander pourquoi. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir que l'homme a pouvoir de manger ce qui porte semence. Et pas les autres animaux. Tiens. Il a une certaine autorité. Les autres animaux, herbe verte. Tandis que l'homme, il est capable, lui, de prendre la semence et de la rejeter, hein, aussi en terre. Il est capable de cultiver. Je crois que c'est lié. En tout cas, il faut se demander pourquoi il y a cette distinction, pourquoi il y a quelque chose qui est donné à l'homme et qui n'est pas donné aux autres animaux. Cela a été très bon. Donc c'est achevé. On parlera un tout petit peu du septième jour tout à l'heure et puis on entamera le deuxième récit.
Session de théologie, la création, le péché, par le père François Arimont, le 20 février 1993, deuxième cours.
Vous avez vu que dans le programme sont prévus deux carrefours. Le premier cet après-midi à 16h30 et le deuxième demain à 16h. Alors, les carrefours où viennent ceux qui veulent se tiendront dans ce bâtiment. Il y en aura deux. Il faudra vous diviser entre cette salle et puis celle qui est juste en dessous. Il y aura deux frères qui seront présents. Le but d'un carrefour, c'est que vous puissiez poser les questions, toutes les questions qui auraient pu être suscitées, ou celles que vous avez, que vous voudriez voir traitées. Alors, dans la mesure du possible, les frères répondront sur place. Hein. Et puis, si jamais il y a besoin que j'y réponde, ils me transmettront les questions. Donc, à nouveau, hein, c'est pour ceux qui le désirent, c'est un moyen de vous aider à entrer dans ce que nous regardons ensemble. D'autre part, on l'a déjà fait, n'hésitez pas, si vous voulez me poser une question directement, de le faire. C'est sûr que quand on parle, c'est plus difficile d'être interrompu. Hein. Alors je vous demanderai, si vous avez une question, de l'écrire. Et puis vous pouvez la poser sur la table, hein, sans autre. Ça permet d'une part que vous la formuliez mieux. Et puis pour moi-même, je pourrais mieux comprendre et peut-être plus réfléchir dessus avant d'y répondre. Avant de répondre à cette question-là qui m'est posée, je voudrais dire, tout à l'heure, hein, j'ai dit, puisque nous sommes dans une session de théologie, je commençais par lire l'Écriture. Cet après-midi, je l'annonce déjà, parce que je crois que c'est important, nous essaierons de voir, parce que la foi chrétienne réclame cela, nous essaierons de voir ce que l'intelligence humaine peut dire sur la création. Donc, faire un effort peut-être plus philosophique, mais dont nous ne sommes pas dispensés. Au contraire, la foi l'exige, et qui nous permettra de mieux voir ce qui est vraiment propre au regard de foi sur la création. Parce qu'il est naturel à l'intelligence humaine de découvrir cet être premier et l'ayant découvert, de comprendre le lien qui existe en cet être premier que nous appelons Dieu, et puis toutes les autres réalités qui existent dans nous-mêmes. On me pose deux questions. Pourquoi Dieu voit-il que la lumière est bonne? En grec, kalon. On ne voit que ce qui est beau. Alors ça, c'est une... D'abord, il voit ce qu'il veut. Mais c'est sûr que le premier, ce récit de la création, est marqué par l'affirmation de la bonté. Et que la beauté, elle apparaîtra dans la Bible pour la Jérusalem céleste, la recréation. Alors ça, pourquoi voit-il que la lumière est bonne? Tout à l'heure, en parlant du fait que Dieu voit, nous avons réfléchi sur ce que ça signifiait voir. C'est manifester que la réalité que la création est autre que Dieu. Eh bien, ça nous est donné. Hein. La première chose que Dieu voit, c'est cette bonté propre à la création et à chacune des créatures. Dieu seul est bon. Hein. Dieu seul est bon, nous dit Jésus. Et pourtant, la lumière est bonne. Et tout ce qu'il fait est bon, et même très bon. Parce que la créature participe de la bonté de Dieu, et elle a sa propre bonté, qui provient de celle de Dieu. Vous voyez, pourquoi pas la beauté? Le bon, c'est lié à la finalité. La créature est bonne. Elle est. La création est faite en vue d'une fin. Le regard sur la beauté est second. Le bon et le beau, hein, c'est une question énorme, ça, en philosophie. Est-ce que tout ce qui est bon est beau, est-ce que tout ce qui est beau est bon? Il y a une beauté du mal. Est-ce qu'il y a une laideur du bien? Ah. Est-ce que tout ce qui est bon est beau? Demandez-vous. Tout ce qui est beau n'est pas nécessairement bon. Ça, je crois. On le voit. Il y a une séduction du mal. Il y a une certaine beauté. On parle de la beauté du diable. Et ce qui est premier, c'est la bonté. Dieu vit que cela était bon. Alors, on ne voit que ce qui est beau. Est-ce que c'est vrai? Je crois pas. Alors là, on est en plus dans un langage métaphorique. On peut voir, oui. C'est vrai que la bonté en elle-même, et nous-mêmes, est-ce que nous voyons la bonté? Est-ce qu'on peut dire, je vois la bonté? La femme a vu que l'arbre, que le fruit était bon à manger. Est-ce qu'on voit directement qu'il est bon? Non, c'est vrai, on ne voit pas directement la bonté. Hein. On voit une forme qui manifeste une bonté. On voit une action qui manifeste une bonté. Ça, c'est vrai. Dieu, il a ce regard intérieur. Il voit que c'est bon. Directement. On me demande aussi quelle distinction faire entre l'image et la ressemblance. Eikona et homoiosyne, en grec. Hein. À l'image et à la ressemblance. J'avoue ne pas trop savoir. Il y a la tradition aussi, hein, qui veut manifester, qui lie aussi à travers ces deux termes, à l'image et à la ressemblance, l'aspect de ce qu'est l'homme, l'image, et l'aspect de l'action de l'homme, qui va correspondre, hein, rejoindre celui qui est son principe. Est-ce qu'on peut voir cela? C'est possible. J'avoue que, bon, je ne saurais pas dire. Si quelqu'un a des lumières... Oui. C'est pas de même nature, hein, Homo iosine. Pas Homo ousios, hein. Homo iosine. Oui. Ça, c'est bien possible. S'il y a les deux, hein, c'est sûr qu'on pourrait voir une complémentarité de... Je sais pas. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, alors, et toute leur armée. Dieu acheva le septième jour le travail qu'il avait fait, et il chôma le septième jour, après tout le travail qu'il avait fait. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, Dieu avait chômé, après tout le travail qu'il avait fait en créant. Telle fut la genèse du ciel et de la terre quand ils furent créés. Donc on arrive à une plénitude. Il y a un terme qui va être manifesté par ce septième jour. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que Dieu a fait le huitième jour ? Parce que jusque-là, ça allait bien. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et le huitième. Il est ressuscité le huitième, oui, c'est vrai, mais par rapport hein, à ça. Alors ça, c'est étonnant. Hein, ce rythme. Dieu acheva le septième jour. Et il chôma. Le travail, hein, il n'y a plus de travail. Le travail est fini. Ça, c'est aussi important. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce que en ce jour, Dieu avait chômé, après tout le travail qu'il avait fait. C'est le jour où on ne travaille pas qui est béni, hein, et qui est sanctifié. Quel est ce repos de Dieu ? Alors, le repos, c'est pas un repos de fatigue, c'est le repos de l'achèvement, c'est le repos de la contemplation. Cela a été très bon. C'est important de voir que tout s'achève, hein, dans le repos de Dieu. Pas nos repos à nous qui sont liés à la fatigue et qui font qu'on se repose pour repartir. Hein. Est-ce qu'on se repose pour travailler ou est-ce qu'on travaille pour se reposer ? C'est bien possible. Seulement, on se repose aussi pour travailler ou pour aimer. On se repose pour vivre. Hein. Alors, on se repose pour vivre. Pour agir, quoi. Hein, quand je parlais du travail, je ne parlais pas nécessairement de la profession. Hein. D'accord. Le travail, tout ce qui est travail dans notre vie, tout ce qui est notre transformation de l'univers, jusqu'à notre propre corps. Alors, est-ce qu'on se repose pour travailler ou travailler pour se reposer, hein? Et là, ce qui achève, c'est le repos de Dieu. Et c'est l'aspect de la contemplation. Et Dieu qui bénit un jour. C'est étonnant, ça. Et le sanctifia. Ce jour est saint. Alors, la sainteté. Qu'est-ce que c'est que la sainteté ? Lié à la séparation. Ce qui est sanctifié est séparé du reste. Dieu seul est saint. Ce qui est sanctifié appartient à Dieu. Le septième jour. savez qu'il y a dans la lettre aux Hébreux toute une méditation sur ce repos de Dieu. Jamais ils n'entreront dans mon repos, dit le psaume. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux commence. Quel est ce repos de Dieu? Son séjour. Telle fut la genèse du ciel et de la terre quand ils furent créés. Ça s'achève par le repos de Dieu. Et puis ce rythme, il y a un rythme fondamental qui reste. Le texte continue. Au jour où Yahvé Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore sur la terre aucun buisson des champs, et aucune herbe des champs n'avait encore poussé. Car Yahvé Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Mais un flot montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Yahvé Dieu façonna l'homme, poussière tirée du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Alors, sans transition, on entre dans un deuxième récit. Tel fut achevé, et puis, tout de suite, un autre récit commence, au jour où Yahvé Dieu fit la terre et le ciel. Il n'y avait encore sur la terre aucun buisson des champs et aucune herbe. Et Yahvé Dieu façonne l'homme. Ce récit se marque, très différent de l'autre. D'abord, tout se passe en un jour. Tout se passe au jour où Yahvé Dieu fit la terre et le ciel. C'est ce qui lie les deux récits. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au jour où Yahvé Dieu fit la terre et le ciel. Mais l'un se passe en 6 ou 7 jours, l'œuvre des 6 jours, et le repos du 7e, l'autre en un seul jour. On les distingue aussi très clairement, ces textes, alors ça, parce que Dieu est appelé par le nom de Yahvé. C'est ce qu'on appelle le document yaviste, oui. À cause de ça, aussi simplement. Le mot Yahvé, vous savez qui? Celui que Dieu a donné à Moïse. Ce nom sacré que les Juifs ne prononcent pas. Et puis, il y avait Dieu façonna l'homme. Il y a le geste de Dieu. Dieu ne parle plus, Dieu agit. Dieu fait des gestes. Et puis il y a un ordre totalement différent. Alors ça, c'est frappant. Dans le premier texte, l'homme apparaît au terme. Ici, il y a juste la terre et l'eau. Voilà ce qu'il faut, la terre et l'eau. On retrouve la terre et l'eau. Mais l'homme est tout de suite façonné. Pourquoi deux ordres? Pourquoi ces deux récits? Alors, attachons-nous déjà à lire celui-là, puis après on va essayer de dire rapidement pourquoi ces deux récits. Donc, façonna l'homme poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie. Et l'homme devint un être vivant, Dieu qui souffle dans les narines de l'homme. Le souffle, c'est l'esprit. Donc l'homme qui est lié, ce texte le dit très très clairement, l'homme qui est lié à l'univers, à la terre, il est fait de la poussière. Il est fait de la poussière, mais il a en lui l'haleine de vie. Yahvé Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. Voilà qu'apparaissent les plantes. C'est pour l'homme. Et Dieu qui conduit l'homme. Yahvé Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres désirables à voir et bons à manger. Ainsi que l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu qui se fait jardinier. Il a été potier pour faire le corps de l'homme, il est jardinier pour le jardin. Remarquez tout de suite, avec les arbres, qui vont avoir une importance très grande pour le péché après, il y a ils sont désirables à voir et bons à manger. Les yeux et puis la nourriture. Qu'est-ce que ça veut dire désirable à voir, hein? Est-ce que c'est l'aspect de, la beauté là, par rapport à la question qu'on a posée tout à l'heure, hein? Désirable à voir, c'est lié à la beauté, je crois, la séduction, hein? Ah, ça c'est étonnant, voilà, apparaît la séduction. Et puis deux arbres étonnants, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là se divisait pour former quatre bras. Le nom du premier est Pishon, c'est lui qui contourne tout le pays de Havila, où il y a l'or. Et l'or de ce pays est bon. Là se trouvent le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du deuxième fleuve est Gihon, c'est lui qui contourne tout le pays de Cush. Le nom du troisième fleuve est Tigre, c'est lui qui coule à l'Orient d'Assour. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. On lit en note, ces quatre versets, oui, sont une addition au récit primitif. Ces versets conservent sans doute quelques traditions anciennes sur le site du Jardin d'Éden. De plus, la description géographique met en œuvre des conceptions et des termes inconnus de nous. Bon, ça ne nous explique pas grand-chose. L'aspect du fleuve. Ah oui, on retrouvera le fleuve, hein, dans l'Écriture. Le fleuve de vie. Il y a un fleuve de vie qui... Il y a un fleuve qui vient du Jardin d'Éden. C'est quoi le fleuve, hein? L'aspect de l'irrigation. Il y a une source, hein? Il sortait d'Éden pour arroser le jardin. L'eau liée, hein? Il faut de l'eau pour qu'il y ait la vie. Alors on a vu dans le premier récit, hein, c'était, vous voyez, c'était l'eau du ciel, hein, la pluie, tandis que là, c'est au niveau du sol. Ça reste mystérieux, c'est sûr. Il y avait Dieu prit l'homme et l'installa dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et il y avait Dieu donna cet ordre à l'homme. De tous les arbres du jardin, tu peux manger, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras sûrement. Il y avait Dieu prit l'homme et l'installa dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Les deux fonctions de l'homme, hein. L'aspect du travail. Alors là, c'est le travail qui apparaît et qui a deux buts, hein. Cultiver et garder. Donc cultiver, hein, faire produire à ce jardin ce qu'il peut produire, et le garder, hein, l'aspect de la protection contre ce qui pourrait le détruire. C'est bien dit, hein, pour eux, ce que c'est que le travail aujourd'hui. Cultiver et garder. Et tout de suite, un ordre. Alors il y a un ordre qui est lié à nouveau à la nourriture. Comme dans le premier récit. Ça c'est sûr, on le retrouve, hein. C'est une constante. Et un ordre, c'est important de le voir, qui regarde le pouvoir de l'homme sur la terre qui lui est confié, sur ce jardin qui lui est confié. Ce jardin lui est vraiment confié, mais il y a une limite qui est mise. De l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Nous ne parlerons pas du péché aujourd'hui, hein. Demain, bon, vous le verrez avec le Père, hein. Le Père Philippe. Ce qu'il y a, hein, cet ordre lié à l'usage de ce qui est confié à l'homme. C'est sûr que c'est un symbole, hein, parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et pourquoi on a pris ça, hein? Pourquoi c'est un arbre? Ce que l'homme doit cultiver, hein? L'arbre où il peut cueillir quelque chose pour le faire sien. Pourquoi cet ordre n'a pas porté sur autre chose, hein? Par exemple, il n'aurait pas le droit d'aller à tel endroit. Non, c'est vraiment s'approprier, hein, quelque chose qui a été créé qui a été fait par Dieu, mis par Dieu. Là, s'approprier, oui, donc le faire sien, hein, l'homme ne peut pas. Son pouvoir est limité, son autorité. Parce que, malheureusement, il le pouvait. Hein. Il y avait Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui soit assortie. À nouveau un moment de réflexion. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Là, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et après que l'homme ait eu sa mission de travailler, le travail, hein, laisse dans le cœur de l'homme cette solitude. Je vais lui faire une aide qui lui soit assortie. Le travail ne peut pas combler son cœur. Il a été fait, hein, poussière donc, d'un univers, avec une haleine de vie, un souffle de vie qui vient de Dieu, esprit. Il a une autorité sur la terre, mais ça ne comble pas son cœur. Il lui faut une aide. Pourquoi cette aide ? Il y avait Dieu, hein ? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi il n'est pas bon que l'homme soit seul ? Est-ce que c'est parce qu'à deux, on travaille mieux ? Pourquoi ? Quelle est cette solitude ? Je crois que le récit répond par lui-même à la fin. Hein. En quoi l'homme expérimente-t-il, ou plus qu'expérimente-t-il, en quoi elle est cette solitude de l'homme ? En quoi elle n'est pas bonne ? Il y avait Dieu façonna du sol toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, il les amena à l'homme pour voir comment il les appellerait. Le nom que l'homme donnerait à tout être vivant serait son nom. L'homme appela de leur nom tous les bestiaux, les oiseaux du ciel et toutes les bêtes des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui lui fût assortie. Donc Dieu à nouveau revient à son métier de potier, il fait les animaux, et il y a l'aspect de nommer. Alors ça c'est très étonnant. Qu'est-ce que ça veut dire nommer ? Voyez, Dieu donne à l'homme cette autorité de nommer les animaux. Pour un sémite, le nom, hein, c'est quelque chose de sacré. Je vous disais tout à l'heure, hein, que le mot Yahvé, les sémites ne le prononcent plus. Les juifs, hein, ne le prononcent pas. Il a été donné à Moïse, et puis, comme c'était un nom, le nom de Dieu lui-même, hein, le prononcer, c'était tellement... Hein, c'était comme s'approprier Dieu. Le nom, c'est ce qu'est l'autre pour moi. Donner un nom à quelqu'un, c'est exprimer ce qu'il est. Jésus qui va changer le nom de Simon pour en faire Pierre. Abraham va devenir Abraham. Le nom, hein, le nom donné, oui, donné par l'ange, il s'appellera Jésus. Tu l'appelleras Jésus. Et l'homme donne leur nom aux animaux. Pour voir quel nom il leur donnerait. C'est une autorité et un aspect de connaissance de l'homme qui domine ainsi, hein, en connaissant. Et en connaissant d'une connaissance qui va jusqu'à donner leur nom aux animaux. Le nom que l'homme donnerait à tout être vivant serait son nom. C'est fort, ça, comme parole. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui lui fût assortie. Donc le travail, ça ne suffisait pas. Nommer, hein, les animaux non plus. Cet aspect de la connaissance de l'homme qui va dominer jusqu'à savoir quel est le nom. Hein. Donner même le nom. C'est lié à l'intelligence. Hein. Tant le travail, vous voyez, le travail, que le fait de nommer les animaux, c'est lié à l'intelligence. Hein. L'intelligence pratique, le travail, cultiver le jardin et le garder. L'intelligence plus contemplative, qui nomme, qui connaît. Et qui connaît de l'intérieur de telle façon qu'elle donne un nom. Eh bien, ça ne comble pas le cœur de l'homme, parce qu'il n'a toujours pas l'aide qui lui fut assortie. Ni le jardin qu'il doit cultiver, ni les animaux qu'il connaît si bien ne suffisent à l'homme. Alors, Yahvé Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Et voilà, anesthésiste. C'est vraiment, je veux dire, vous voyez tout, au-delà de l'image, mais cette action de Dieu, c'est tellement différent du premier récit. Dieu dit, là, on voit tout ce que Dieu fait. Il met la main à la pâte, quoi. Et puis, alors l'homme dort. Le sommeil. Premier sommeil de l'homme, pour ce moment-là. Ah tiens. Le sommeil qui implique, ceux qui ont des insomnies le savent. Le sommeil qui implique, il y a une remise de soi. Parfois, quand on est trop tendu, on n'arrive plus à dormir. On n'arrive pas, ça implique une certaine confiance. Pour s'étendre, se laisser, oui, il faut se laisser aller. Si on essaye de réfléchir au moment où on va dormir, on ne dormira jamais. Il faut bien qu'il y ait un moment où on suspende. L'homme s'endort. Il y a une torpeur, et c'est Dieu qui l'endort d'ailleurs. Il ne s'endort pas tout seul. Le sommeil, il y est. Et ce qui se passe dans le sommeil m'échappe. Bon, puis en plus, valait mieux, puisque il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Quoi. Oui, c'est vraiment, vous voyez. Il valait mieux qu'il dorme pour ça. Alors Dieu prend une côte et referme la chair à sa place. Il prend quelque chose de l'homme au moment où l'homme dort. Yahvé Dieu bâtit en femme la côte qu'il avait prise de l'homme. Ça, c'est une traduction, c'est la traduction du chanois Nosti. Bâtit en femme la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena à l'homme. L'homme dit, celle-ci cette fois est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, car c'est d'un homme qu'elle a été prise, celle-ci. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair. Or tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'en avaient pas honte. La première parole de l'homme, elle est pour reconnaître la femme. Il a nommé, mais c'est la première parole qui nous est donnée par l'homme. Celle-ci, cette fois, est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, car c'est d'un homme qu'elle a été prise. Ici, en hébreu, nous, on a du mal à comprendre. Elle sera appelée femme parce que c'est d'un homme qu'elle a été prise. Bon. C'est parce que femme, c'est Isha, et homme, c'est Ish. L'homme, avant, c'était Adam, le terreux. Adam, c'est celui qui est fait de la terre, le terreux. Notre Adam. Au niveau de la distinction, c'est d'abord Ish et Isha. Assez proche de c'est masculin et féminin, quoi. Mâle et femelle. La reconnaissance que l'homme a, c'est quoi ? L'os de mes os et la chair de ma chair. Elle est différente de lui. Donc là, il s'est réveillé. Il la reconnaît différente, celle-ci, et en même temps, il y a une unité. Elle vient de lui. Une unité très forte, l'os de mes os et la chair de ma chair. Mais elle n'est pas moi, c'est celle-ci, c'est pas moi. Il y a plus qu'une parenté, Et pourtant, ils sont deux. Et c'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme et ils deviennent une seule chair. Alors, c'est étonnant. Hein, les premiers personnages, c'est pas l'homme, c'est son père et sa mère. Il a été fait par Dieu et voilà qu'on dit qu'il quitte son père et sa mère. Ça, c'est la logique hein, de ce récit. C'est-à-dire qu'il faut pas, c'est pas notre logique à nous. Hein. L'homme quitte son père et sa mère. S'attache à sa femme et tous deux, et ils deviennent une seule chair. Ils sont deux et il y a l'unité. Et tout s'achève dans l'unité. Ils deviennent une seule chair. Or, tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, ils n'en avaient pas honte. L'unité qui se réalise dans la limpidité, hein, avec le thème de la nudité. Une nudité sans honte. Simplicité, confiance, limpidité. Et tout s'achève là. Cette aide dont l'homme avait besoin, hein, cette aide qui devait lui être assortie, c'est quoi? C'est une femme, c'est-à-dire celle qui est prise de lui, qui est autre que lui, et à laquelle il va pouvoir s'attacher pour devenir une seule chair. Celle qui est capable de relativiser même ce lien si fort qui unit l'homme à ses parents. Il quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Et donc, il est manifesté aussi, hein, là, il y a un aspect volontaire, d'un acte volontaire, d'un choix. C'est l'amour hein, qui est dit là, qui est exprimé. Quitter pour s'attacher à sa femme. Cette aide qui lui soit assortie, hein, qui lui est assortie, c'est quoi? C'est cette femme qu'il va pouvoir aimer en relativisant le lien si fort hein, qu'il unit à ses parents pour vivre dans l'unité. Et celle-ci qui doit être si proche de lui, elle est l'os de ses os et la chair de sa chair et en même temps différente. Et il la reçoit. Hein. Elle lui est donnée. Dieu l'a amenée à l'homme. Le serpent était la plus rusée. Voilà. Tout de suite, hein, ce récit continue. C'est le même jour, d'ailleurs. Hein, il n'est pas question de jour dans ce récit. Hein. Ça continue. Alors ça, je ne vais pas le faire. Arrêtons-nous un tout petit peu. Pourquoi ces deux textes? Pourquoi ces deux récits? Pourquoi ces deux ordres si différents? Le récit de la parole, le récit ordonné selon le temps, hein, il y a un ordre qui est, vous voyez, qui part du plus fondamental vers le plus, vers ce à quoi tout est ordonné, hein, vers la fin, le but, l'homme. Et un autre récit qui d'une certaine façon est plus chaotique, hein, le deuxième, où tout commence par l'homme. Disons, d'abord, il faut bien sûr qu'il y ait la terre et l'eau, mais c'est l'homme. Et après, tout va être fait pour que l'homme soit bien. Hein. Dans le premier récit, tout est préparé avant que l'homme n'arrive. Dans le deuxième récit, Dieu fait l'homme, et une fois que l'homme est là, Dieu fait tout ce qui est nécessaire à l'homme. C'est très différent. Deux ordres différents. On distingue, hein, en philosophie, ce qu'on appelle l'ordre d'intention et l'ordre d'exécution. Il y a un ordre qui regarde d'abord la fin. D'ailleurs, psychologiquement. Parfois, d'ailleurs, c'est lié, hein, l'homme et la femme. Il y en a certains qui auront plus, c'est-à-dire une propension, à voir avant tout le but. Et donc, un ordre, avant tout, c'est situé dans un ordre d'intention. Voilà, c'est ce qu'il faut. Et d'autres qui diront, mais non, il faut commencer, avant de regarder le but, il faut poser les éléments qui vont nous y conduire. Un ordre d'exécution. Dans l'ordre d'intention, c'est la fin qui est première. Dans l'ordre d'exécution, la fin, elle est dernière. Ce qui est premier, c'est les moyens que je prends pour arriver vers la fin. Et les deux, ils sont distincts, hein, il ne faut pas les opposer. Il y a un ordre qui vient plus... Ça, l'ordre d'intention est lié à l'aspect de la volonté, de l'amour. L'amour regarde tout de suite la fin. L'ordre d'exécution, c'est l'intelligence pratique dans la réalisation. C'est l'intelligence qui va justement ordonner, hein, en fonction de la fin, bien sûr, hein, mais qui va ordonner que mon exécution, elle se fasse par étapes, vers. Deux ordres. Un récit lié à la parole et l'autre au geste. Et ça, c'est très, très important dans toute la Bible, parole et geste. Quand je veux m'exprimer, quand je veux exprimer à quelqu'un ce que je porte au-dedans de moi, hein, j'utilise et la parole et le geste. Ce serait très intéressant, hein, ça a sûrement été, je crois, à la première session, il y avait parole et révélation, donc j'imagine qu'on en a beaucoup parlé. Je ne sais pas qui était à la première session. Il y en a un qui était à la première session. Vous pouvez lever la main, comme ça, pour information. Oh, voilà. Parole et geste, hein. C'est très différent. La parole, plus liée à l'aspect de l'intelligence. Ah oui, la parole, c'est l'intelligence. Liée à la signification, hein. Pour qu'il y ait une parole, il faut qu'il y ait une signification. Signification qui vient de la pensée. Hein. Sinon, on ne peut pas vraiment parler de parole. Hein. On ne peut pas dire qu'il a dit. Il a crié, peut-être. Crié, vous voyez. Hein. La parole, liée à la signification, l'intelligence, le geste, plus lié à l'affectivité. Le geste a quelque chose de beaucoup plus universel aussi. Hein. Le geste lié au corps. La présence. Hein. C'est bien face à certaines situations. Hein, quand un enfant pleure, il ne suffit pas d'une parole. Hein. Il va falloir le geste, le contact, la présence. Hein. Et d'ailleurs, ce récit où on voit Dieu qui façonne, hein, ça met une proximité si grande entre lui et sa création, entre lui et l'homme. On est dans sa main comme l'argile dans la main du potier. Dieu qui amène l'homme, on voit Dieu qui prend l'homme par la main et qui le conduit. Le geste. Geste et parole. Ces deux récits, il nous faut accepter qu'ils sont deux déjà. Il faut l'accepter. Et ils sont là parce que, souvent d'ailleurs, on retrouve ça dans l'Écriture, pour éviter que nous ne bloquions, hein, un mystère avec un schéma qu'on s'en fait. Dieu nous donne deux regards. La vision de l'homme est comme ça, hein, il faut les deux yeux pour avoir du relief. Si je n'ai qu'un seul œil, je vois très très mal le relief. Il faut deux regards aussi parce que c'est ni l'un ni l'autre. C'est autre chose. Hein. La genèse du ciel et de la terre, hein. Dieu qui crée le ciel et la terre, c'est autre chose que le premier schéma que je peux avoir en lisant le premier récit ou celui que j'aurai en lisant le deuxième. Pour exprimer à la fois, hein, premier récit manifeste davantage, voyez, l'autorité. Hein. Dieu est beaucoup plus séparé dans le premier récit. Dieu dit. Hein. Cette autorité de Dieu. Et l'aspect, la pensée de Dieu. Dieu qui porte tout dans sa pensée. Dieu qui veut et qui crée en voulant. La transcendance. Premier récit marque vraiment ça. Hein. L'aspect de la sagesse aussi. Deuxième récit, plus la présence de Dieu. C'est-à-dire la présence, la proximité de Dieu. Et c'est pas pour rien que c'est le deuxième récit, celui qui est lié au geste, qui va nous expliquer, non, nous laisser entrevoir quelle est l'intention de Dieu sur l'homme et la femme. Et remarquez au passage, c'est pas lié à la fécondité. C'est pas lié à la fécondité. La femme n'a pas été créée pour la fécondité. Il n'en est pas question encore. Dans le deuxième récit, C'est-à-dire qu'elle est exclue, mais il n'en est pas question.